À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Alain Mabankou, écrivain franco-congolais.
Deuxième épisode, le rêveur de Pointe-Noire. Bonsoir Alain Mabankou.
Bonsoir.
Hier, pour la première émission, vous nous avez fait le portrait et la visite guidée, on peut dire, de la ville de votre enfance, Pointe-Noire, ville de votre jeunesse, dans ce qu'elle était dans votre enfance et dans votre adolescence et dans ce qu'elle est devenue. Ce soir, j'aimerais que nous parlions de votre famille et de cette famille monténégrine, de cette enfance monténégrine que vous avez eue et que vous retracez dans vos livres autobiographiques. « Demain, j'aurai 20 ans »,« Les cigognes sont immortelles »,« Lumière de Pointe-Noire ». Pour ça, j'aimerais qu'on parte d'une photo. Une photo que vous avez publiée dans Lumière de Pointe-Noire. C'est une photo où l'on vous voit, vous, enfant, entre vos deux parents, votre mère, Pauline Kengue, alias Maman Pauline, dans vos livres, votre père, Roger Kimangou, alias Papa Roger, deux parents qui n'étaient pas mariés, votre père, un père adoptif, mais votre père, réel, pour vous. Déjà marié à une autre femme et déjà père de cet enfant.
Oui. Je pense que c'était... On constituait une certaine trinité entre mon père, ma mère et moi-même, puisque moi, j'étais fils unique du côté de ma mère. Et cette photo-là, lorsque je la regarde, puisque nous nous trouvons dans un bar, nous sommes en train de prendre un pot, comme on dit. Il y a deux bouteilles de... bière de part et d'autre. Il y a trois verres. Ma mère a un verre.
Aux lèvres.
Voilà, aux lèvres. Mon père aussi la même chose. Et mon verre, je ne l'ai pas soulevé. Il est posé là. Je regardais droit devant moi, les yeux ouverts, la bouche aussi ouverte. Alors, je me demandais bien... Pendant longtemps, j'ai réfléchi pourquoi j'avais cet air un peu pratiquement étonné, les yeux grands ouverts. C'était tout simplement parce que avant la photo, je crois que mon père avait dit « Regarde bien cet appareil-là. Tu vas voir un oiseau qui va sortir là. Tu vas voir les couleurs de cet oiseau. Tu n'as jamais vu un oiseau pareil. » Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'un oiseau puisse sortir. Et j'ai eu le coup de flash. Et à la fin, j'ai dit « Mais je n'ai pas vu l'oiseau. » Il dit « Non, c'est quand tu as fermé les yeux et tu les as rouverts, l'oiseau était déjà parti dans ce sens. » Mais cette position-là, puisqu'on est vraiment très serrés, tous les trois, c'est ma mère qui avait mis en scène la photographie. Et elle avait pris pratiquement une bonne partie de la photo, s'appuyant tellement vers sa droite qu'elle nous a repoussés de l'autre côté. Nous avions un tout petit espace. Ça, c'était elle, parce qu'elle avait toujours souhaité être le personnage principal. Elle avait tout arrangé, on voit le couvre-chef africain, la montre bien posée, le côté impérial même de la pose. On ne pouvait pas ne pas accepter vraiment sa mise en scène, qui est parfaite. C'est resté l'une des photos que je regarde toujours lorsque je dois écrire, parce que ça me donne le démarrage immédiat.
Là, on ne le voit pas, mais votre père était aussi calme et posé que votre mère était tempétueuse.
Oui, le père était plutôt calme, posé, conciliant. Mais la mère, elle avait un caractère. Je veux dire que c'est elle, comme on dit au Congo, qui portait le pantalon. Donc nous, on était là, il y avait des fois où elle arrivait, on ne savait pas pourquoi elle était fâchée. Donc nous, on se disait, écoute, il faut qu'on aille se balader dehors, mais quand on veut partir, on dit, vous allez où? Revenez ici. Donc on devait subir lire, et après, passer ce moment-là, elle devenait normale, puis nous mangeons tranquillement. Mais c'était ça aussi. C'est-à-dire que lorsque je voulais éviter la tempête, je courais vers le père. Mais le père savait que la tempête était tellement forte mais qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Alors que c'était ça aussi. Et nous l'avions su, puisque dans la famille, tout le monde craignait la mère. Elle avait indirectement le rôle de chef de famille. C'est pour ça qu'il était chaque fois en conflit avec mon oncle, tonton René, parce que tonton René voulait prendre le pouvoir par l'argent. Et ma mère voulait prendre le pouvoir par le charisme naturel de la débrouillardise. Je vends au marché en détail, je ne suis pas Crésus, je n'ai pas la fortune, je ne sais pas de qui, mais je peux quand même garantir à la famille quelque chose.
Elle vendait des arachides et des bananes au grand marché, dont on a parlé hier, et elle tenait beaucoup à cette indépendance. Preuve, s'il en est, la maison qu'elle avait elle-même acquise en 1979.
Oui, elle avait acquis sa maison par ses propres moyens, ce qui lui donnait encore plus de puissance dans la famille, puisque tous les hommes qui étaient aux alentours se disaient comment cette femme a pu faire avec son petit commerce, acheter une parcelle, construire une maison.
Elle, la paysanne modeste.
Voilà, la paysanne modeste. De Louboulou. Du coup, c'est simple. Dans nos sociétés congolaises, lorsque vous montrez que vous êtes quelqu'un de la débrouillardise et que vous avez un tout petit peu réussi dans votre vie, le rôle de chef de famille vous est donné automatiquement. Tout simplement parce que vous nourrissez toute une partie de la famille, vous êtes devenu les responsables de la famille. Quand j'étais arrivé là-bas, c'est comme ça qu'ils me voyaient. Le fait que je sois allé en Europe, que je vive aux États-Unis. Mmh. Et voilà, 2013, j'arrive là-bas, les gens faisaient allégeance comme si on dit « voilà, on te donne le bâton de chef de famille désormais ». Donc c'est toi, quand quelqu'un a un problème, on t'écrit, tu envoies de l'argent. Donc, c'était pour moi une sorte d'intronisation en se disant « je suis désormais le responsable de la famille puisqu'il n'y a plus tonton René, il n'y a plus Bonbon Pauline, etc. » Donc, c'est toi, par la volonté de ceux qui sont partis, c'est toi qui prends le pouvoir et c'est toi le responsable de la famille. Et on ne peut pas se défiler d'avoir une responsabilité comme ça. Un Congolais qui refuse de prendre la charge de diriger la famille est un Congolais qui est pratiquement maudit. Parce que quand il vous demande quelque chose, vous devez être là. Et chez nous, on dit toujours que le chef de village ne voit pas le diable. C'est-à-dire que même si tout le monde est apeuré, même si tout le monde a peur, c'est le chef du village qui conduit les affaires du village.
Mais à la différence de vous, à ce moment-là, votre mère, elle le voulait, comme vous le disiez.
Non seulement
c'était une battante.
Non seulement elle le voulait, et vous voyez même l'illustration selon laquelle que les sociétés africaines étaient plus féministes que les sociétés occidentales. Chef de famille, c'est une femme. Et nous sommes en Afrique, alors que les images d'Épinal qu'on a présentées en Occident de l'Afrique, c'était que les femmes étaient derrière comme des posters collés à un mur. Et non, ma mère, dès qu'elle se mettait debout, tous les gamins...
Mais
tout le monde fuyait. Hein. Elle arrivait comme ça, elle donnait un ordre. Je rentre dans un bar, j'ai demandé une bière. Le serveur se pliait en quatre. Il était là, c'est Pauline qui a demandé une bière. Donc, il y avait cette puissance qui était là. Et elle n'était pas la seule, parce que dans beaucoup de familles, c'était les femmes qui commandaient, qui dominaient au marché, dans certains endroits. Voilà, c'était la femme. Même dans le métier de sorcellerie, enfin quand je dis sorcellerie, c'est pas dans le sens mauvais, mais c'est dans le sens de la guérison. C'est-à-dire les gens avaient plus confiance en aller chez une guérisseuse que chez un guérisseur.
Voilà. C'est au marché qu'elle avait rencontré Papa Roger.
C'est au marché.
Celui qui est devenu Papa Roger.
Voilà, celui qui est devenu Papa Roger, donc mon père, il s'était croisé au marché puisque ma mère était en train de vendre là. Et mon père avait l'habitude, avant d'aller à son travail au Victory Palace, il s'arrêtait au grand marché, achetait des arachides. Tu sais, en Afrique, vous pouvez voir un papa tranquillement avec un sachet à la main. Il est en train de manger les arachides en allant à pied. Et il jette les coques d'arachides dans la rue comme ça, hein. Voilà, dans ce sens. Et chaque fois, il venait toujours acheter ses arachides chez la mère, parce qu'il y avait donc une certaine sympathie. Et puis, ne le cachons pas, c'était une femme très belle, et le père était peut-être fasciné aussi de se dire, c'est qui cette femme qui est toujours assise là, avec son fils à côté.
Donc, elle était seule à ce moment-là.
Elle était seule à ce moment-là, et puis ils ont sympathisé, et puis du jour au lendemain, un jour, on a vu, bouf, Papa Roger a débarqué à la maison, tranquille. Il avait toujours un petit cadeau pour moi qui ramenait de l'hôtel. Donc, dans ce sens, je pense que c'était une des rencontres peut-être romanesques les plus extraordinaires. Il me faudra un jour me pencher sur l'art de la rencontre dans les familles congolaises.
Votre mère était seule à ce moment-là parce qu'elle vous avait, vous, oui. Mais elle avait été abandonnée par celui qui était votre père biologique,
voilà.
Un gendarme,
oui.
Qui l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte,
oui,
hein, juste avant votre naissance.
Voilà. D'où mon acharnement, on voit toujours dans certains de mes livres les gendarmes qui n'ont pas une bonne place, que ce soit dans « Demain j'aurai 20 ans », mais même ici dans « Lumière de Pointe-Noire » ou dans « Le commerce des allongés ».
À la Mabankou, vous disiez que vous étiez enfant unique.
Oui.
En même temps, vos parents avaient mis au monde, avant votre naissance, oui. deux petites filles qui n'ont pas survécu et qui existent notamment dans Demain j'aurai 20 ans. Elles sont très présentes dans Demain j'aurai 20 ans. Elles existent dans d'autres livres encore. Vous les surnommez Sœurs étoiles et Sœurs sans nom.
Oui, je pense que c'était une sorte de légende parce que être fils unique à cette époque-là, c'était un calvaire. Parce qu'on pensait toujours que c'était la faute à l'enfant unique, celui qui a été égoïste, méchant, destructeur. C'est-à-dire, en venant au monde, il s'était arrangé de ne pas donner de la chance aux autres enfants d'être vivants. Sauf que tous les péchés qu'on mettait sur mon dos, c'était presque de la mauvaise foi. Moi, j'étais arrivé en troisième position, donc j'étais pas là avant. Si j'étais le premier et que j'ai empêché les autres, non. Il y a deux sœurs qui sont arrivées, qui sont montées à faire, et puis moi je suis venu à la fin. Mais sauf que lorsque vous promenez dans la rue, on dit fils unique, on ne précise pas qu'il y a eu deux avant qui étaient mortes. Donc j'ai commencé à m'inventer cette sorte de sœurs, où je disais oui, j'ai deux sœurs, mais ils habitent en Europe. Et pour les gamins qui étaient de mon âge, ils ne comprenaient pas, j'ouvrais un catalogue de la Redoute. Si je voyais dedans, il y avait deux filles noires à l'intérieur, je disais, voilà, ça c'est elle, ça c'est elle. Et les gens y croyaient, puisque j'avais déchiré parfois la page que j'amenais pour prouver aux autres à l'école primaire que j'ai deux sœurs, mais ils habitent où ? Ils habitent dans le ciel. C'est pour ça que j'avais écrit un livre pour enfants qui s'intitule « Ma sœur étoile ».
Absolument. Voilà. Vous disiez que les autres enfants et puis les adultes se moquaient ou raillaient le fait que vous étiez un enfant unique et vous faisaient porter une culpabilité.
Ouais.
Culpabilité sans doute redoublée par le fait que votre mère avait envie d'avoir d'autres enfants. Toute votre enfance, vous racontez ça.
Oui.
Est-ce que vous souffriez, vous, d'être un enfant unique ou est-ce que vous souffriez de voir votre mère souffrir ?
Moi, je n'avais pas pris conscience au départ, mais pendant l'adolescence, j'avais vu que non seulement elle en souffrait, mais la souffrance était accrue parce qu'elle avait désormais la conscience que c'était fini. C'est-à-dire qu'elle n'aurait plus que cet enfant-là qui était en face. Et que ses consoeurs du marché, ses collègues du marché venaient lui dire « Ah, Pauline, quelle malchance, Dieu ne t'a pas gâté. Il te donne un enfant et cet enfant-là, au moins, si c'était une fille, mais encore, on te donne un garçon, tu vas aller où avec ça ? » Donc, on aurait préféré, enfant unique, que ce soit une fille, mais pas un garçon. Parce que dans la mesure où il se disait que les garçons sont indifférents, il va t'abandonner, il va voyager, etc., etc. Donc, elle en était arrivée au point où elle se disait que, bon, puisqu'on m'a donné celui-là, faisons avec les moyens du bord. Et je pense que cela s'était dissipé lorsqu'elle avait vu que j'étais vraiment très assidu à l'école, que je travaillais beaucoup, que je me détournais pas de l'objectif, que j'allais à l'école, que j'avais les notes qu'il fallait, que je passais dans les classes supérieures, que j'étais collège, lycée. Et là, ça lui avait redonné une sorte de joie. Parce que quand on venait lui dire n'importe quoi sur son fils, il disait « Oui, mais regardez vos enfants ». Ils ne vont pas à l'école, ils ont redoublé, ils ont triplé, alors que le mien, il vole de victoire en victoire. Donc c'était sa sensibilité qui sortait à ce moment-là, et je savais désormais que la plus haute des récompenses que je lui ferais serait de bien faire les études et d'être quelqu'un dans la vie, pour qu'elle n'ait pas à regretter, qu'elle dise au moins « bon, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité ». Et c'est ce qu'elle disait le plus souvent. Vous en avez fait 12, mais je préfère avoir un fruit mûr bien qu'un caisson de fruits pourris. Donc c'était vraiment une sorte de défi avec les femmes du quartier.
En 1989, vous êtes parti.
Oui.
Vous êtes parti faire des études de droit en France,
oui.
à Nantes. Est-ce que vous êtes parti avec la bénédiction de votre mère ?
Oui, il y avait non seulement la bénédiction, mais le départ. Mon départ pour la France en 1989 était terrible pour tout le monde. Je vivais déjà à Brazzaville et ma mère était pratiquement venue faire une sorte d'adieu. Ce n'était même pas au revoir. Elle est arrivée, elle a commencé à faire un long discours sur la vie en général. On était dans un bar, soleil commençait à se coucher, donc je la voyais entre ombre et lumière, dire, voilà, le destin bizarre, pourquoi ils ont choisi mon fils pour aller étudier en France, il y a plusieurs enfants dans ces pays, il a fallu qu'on m'arrache encore celui-là, et je sais que tu ne reviendras pas, c'est fini, hein. Il y a une sorcière qui m'avait dit que de toute façon, quand tu iras, tu reviendras jamais. Donc elle a fait une sorte de longue raison finale comme ça, et après, à la fin, on a discuté, je pouvais même pas parler puisque dès qu'elle s'est levée, elle a tourné le dos et je l'ai vue tranquillement s'éloigner. Elle n'a plus regardé derrière. Et cette image saisissante que j'ai racontée à peu près dans mon recueil de poèmes, l'introduction qui est là, tant que les arbres s'enracineront dans la terre, cette image était restée comme, je n'avais pas saisi l'importance de cette image. C'est-à-dire que non seulement elle m'avait regardé, mais en tournant le dos, en disparaissant, elle voulait garder cette image-là. Et si bien que moi aussi, quand je pense à elle, je vois une femme qui est en train de tourner le dos et partir. Et quand vous lisez dans Le commerce des allongés, le personnage principal qui s'appelle Liwa, chaque fois qu'il regarde sa grand-mère lui donnait toujours le dos. Et quand j'écrivais cette scène dans Le commerce des allongés, je pensais principalement à notre séparation. C'est l'une des séparations les plus intenses, les plus douloureuses que j'ai eues dans mon existence. Toute catégorie de séparation comprise, hein, le voyage, l'exil, les trucs comme ça, la vie privée, non. À côté de cette séparation-là, c'est la séparation suprême. Vous voyez quelqu'un qui a un enfant, le seul être de son existence, qui dit adieu, qui se tourne et qui part et qui ne regarde plus parce qu'elle est convaincue, cette maman, qu'on a pris son fils, qu'il est parti. Et donc, on avait presque même l'impression qu'elle s'était dit, j'ai rempli ma mission, je vous ai fait un enfant, je vous l'ai mis là, faites ce que vous en voulez. Mais je n'attends pas de vous une quelconque récompense. Et c'est peut-être même ça, toute cette existence qui est là, pour moi, je me dis, c'est quelqu'un qui n'a pas vu l'homme ou l'écrivain que je suis devenu ou le professeur que je suis devenu.
En même temps, vous dites que c'est elle qui vous a fait poète et vous lui dédiez tous vos livres parce que, effectivement, vous ne l'avez pas revue. Elle est morte en 1995. Et vous dites, à partir de sa mort, toute votre poésie, vous écriviez déjà de la poésie, toute votre poésie a été différente. Elle était à la fois le pays, le lien, le souvenir, la fin et le commencement.
Oui, je pense que, du coup, c'est pour ça que j'avais commencé à écrire de la poésie intensément, parce que la poésie, c'est la manière la plus directe et la plus précise de pouvoir regarder la douleur interne qu'on a. Et quand j'ai commencé à écrire, non seulement je me suis dit qu'elle est la raison de mon écriture, mais en même temps, elle m'a rendu poète parce qu'elle a accru ma nostalgie, elle a donné à mon regard une certaine habitude de s'appesantir sur la substance et de se détourner de ce qui est superfétatoire. C'est même ça la philosophie qu'elle avait toujours. La substance était fondamentale. L'accessoire viendrait par la suite. Et dans le même temps aussi, quand j'ai commencé à écrire des romans, je me suis dit que je ferais d'elle la femme la plus connue de la littérature francophone, africaine, de l'Afrique noire, au moins de cela. C'est-à-dire qu'elle serait maman Pauline et de l'autre côté, il y aurait papa Roger, qu'on l'étudierait dans les écoles, comme on fait. Je veux dire que mes livres ont été au programme au Bénin, dans beaucoup de pays. On étudie, j'arrive quelquefois. Quand les gens sont en train de parler de maman Pauline, ils ne savent pas qu'ils parlent d'une femme illettrée qui n'a jamais été à l'école, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, mais qui avait pour ambition de mettre son enfant en école pour la venger.
Et quand il voit Papa Roger, il ne savait pas que il avait été le plus grand danseur de la région de la Buenza, respecté dans son village natal de Ndouga, surnommé Roger le Prince, qui était donc Papa Roger avant d'être réceptionniste à l'hôtel Victoria Palace.
Ah oui, ben parce que mon père, donc Papa Roger, qui était le père adoptif, mais pour moi, c'est le vrai père parce que la paternité n'est pas simplement génétique, la paternité est un sentiment. Et Papa Roger, on l'appelait Roger le Prince parce qu'il était, quand il arrivait dans les danses folkloriques, dans les danses des funérailles, quand il dansait, toutes les femmes tombaient. Pourtant, c'était un petit homme, hein, très très petit homme, mais il avait toujours des femmes grandes parce que quand il se promenait, Papa Roger et ma mère, on disait toujours que c'est une bouteille et un verre. Hein, une bouteille de vin et un verre qui étaient à côté. Ma mère plus grande et Papa Roger tout petit. Mais quand il dansait, il faisait de la lévitation. Hein, en bas, là, on voyait qu'il était en l'air. Et ça, ça rendait tout le monde fou puisqu'on se disait qu'il avait une certaine, un totem d'oiseau qui lui permettait, pendant la transe, de s'élever, d'aller dans les airs et de capter tout le monde. Et donc, mon père était un des grands danseurs traditionnels dans son village là-bas. Et la plupart du temps, toutes les femmes tombaient, comme on disait à cette époque-là.
Votre père lisait beaucoup les journaux. Il lisait beaucoup les journaux français, d'ailleurs. Et il écoutait beaucoup la radio sur sa petite Grundig. Une radio. Alors, il y avait deux radios. Il y avait la radio nationale, la voix de la révolution congolaise qui diffusait des nouvelles du monde. Et puis, il y avait la voix de l'Amérique, avec la fameuse voix de l'animateur Roger Guifoli, que vous écoutiez beaucoup avec votre père. C'est par la radio que vous étiez au courant de l'actualité dans le monde. Le Cambodge, l'Iran, il y a beaucoup de pages dans vos livres, en particulier dans Les cigognes sont immortelles, où vous racontez cette découverte du monde par la radio et l'éducation politique que vous a donné votre père.
La radio est une fenêtre importante pour nous, parce que chacun avait toujours une petite radio portative. Dans la rue, les gens se promenaient toujours avec la radio pour ne pas oublier son émission, ses informations, parce qu'il y avait les nouvelles nécrologiques, il y avait, je ne sais pas, des émissions, les disques à la demande. Voilà. Donc à l'époque, voilà, il fallait demander un disque à la radio, etc. Et donc, moi, à la maison, écouter La Voix de l'Amérique, écouter à l'époque Radio France Internationale, à l'époque, écouter toutes ces radios, La Voix de la Révolution Congolaise me permettait de m'ouvrir au monde et je voyais deux sortes de discours. Le discours officiel de la radio congolaise et le discours très direct de La Voix de l'Amérique et le discours français qui passait par le biais de Radio France. Donc j'avais déjà trois sources d'informations. Devrais-je écouter ce que disait mon pays par la voix de la révolution congolaise, c'est-à-dire les mensonges du régime dictatorial, ou bien devrais-je écouter la Radio France Internationale qui venait quand même de l'ancienne puissance coloniale, donc qui préserverait néanmoins les intérêts de la France, ou alors devrais-je écouter la voix de l'Amérique qui était une sorte de neutralité puisque c'est pas l'Amérique que nous avait colonisé, mais en même temps l'Amérique aussi voulait conquérir l'Afrique. Donc dans tout ça, dans un cerveau d'un gamin de 10 ans, il fallait faire le point. Et c'est ce point-là que j'avais essayé de faire aussi bien dans « Demain, j'aurai 20 ans » que dans « Les cigognes sont immortelles ». Sans la radio, je ne serais pas devenu quelqu'un qui analyserait peut-être cette actualité de façon, actualité politique internationale, de façon presque désabusée, ou j'allais dire même de façon objective, parce que je laisse toujours de la place au doute et à la multiplicité des sources d'informations. Même quand je lis les journaux, je lis trois des journaux de tendances différentes, à commencer par les journaux de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, parce que moi, je ne suis pas celui qui va écouter ce qu'on me dit, mais je dois rechercher l'information pour aller à la source.
Alain Mabankou, si on continue le portrait de cette famille, alors il y a maman Martine dans l'autre famille de votre père, chez qui il y avait aussi des enfants, où justement vous aviez le bruit familial que vous n'aviez sans doute pas autant par votre mère quand elle était en colère chez vous. Et puis il y a un troisième personnage important, c'est tonton René, Tonton René, qui était directeur administratif et financier de la CFAO, et qui donc revendiquait la place d'argentier, disons, qui était plus aisé que votre mère et que votre père. Parlez-nous de Tonton René, de quand vous alliez chez lui.
Tonton René, c'était donc c'était le grand frère de ma mère. Donc ma mère venait juste après Tonton René. Il y avait toujours une guerre de pouvoir entre les deux. Tonton René, c'était le seul personnage aisé de notre famille. Donc, il avait tout, directeur administratif et financier, sorti à l'école de commerce de Paris, et revenu au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire déjà avec un bon poste, avait les voitures qu'il changeait tous les 6 mois parce que il travaillait la CFAO, compagnie concessionnaire au Congo, et donc il avait toutes les belles filles de Pointe-Noire qui couraient après lui, et moi je les voyais avec fascination. Donc parfois j'allais dormir de l'autre côté, mais ils avaient toujours leur combat avec ma mère et Tonton René, c'était le chat, la souris, et ils se détestaient, mais ils s'admiraient, ils s'aimaient, ils se chamaillaient, et finalement moi je voulais en quelque sorte être comme cet oncle-là, qui avait une affection particulière pour moi, puisque à son travail il m'avait présenté comme étant son fils, comme ses propres enfants. À l'époque-là, n'allait pas très 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 loin à l'école, donc il pensait qu'aller chez les Blancs me présentait comme son enfant, donc il m'amenait tous les jours au lycée, au collège, il disait « c'est mon fils », eh ben, ça lui faisait un peu de l'honneur. Quand on devait sortir quelque part, ben, j'allais avec lui.
Et puis, il y avait les frères et les sœurs, et puis il y avait les cousins et les cousines, une famille au final assez nombreuse, que vous avez retrouvée, Alain Mabankou, quand vous êtes retourné au Congo. Oui. Relation un peu compliquée, parce que vous l'avez raconté tout à l'heure, celui qui est parti, celui qui est allé en France, celui qui est devenu célèbre, celui qui a de l'argent. Mais toujours est-il que toute cette famille, la vie quotidienne pendant 23 ans à Pointe-Noire, c'est donc la matière de vos romans. On va continuer demain avec la matière de ces romans et votre enfance, votre adolescence, parce que j'avais intitulé cette deuxième émission « Le rêveur de Pointe-Noire ». Vous étiez un petit garçon rêveur dans une société qui n'était pas du tout. C'est ce qu'on verra demain avec vous, si vous le voulez bien. Merci. À demain et bonne soirée.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Stéphane Foulon, réalisation Laure-Hélène Planchet, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.